Il y a de la place pour tout le monde. L'union fait la force et par la diversité des profils et des corps qu'on va réunir dans une équipe, on va pouvoir produire quelque chose ensemble de cool. Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Si vous êtes fan de films ou de séries américaines, vous avez peut-être, comme moi, grandi avec les films de cheerleader des années 2000 ou plus récemment dévoré la série Cheer sur Netflix. Ce qui est sûr, c'est qu'on a adoré détester ces pom-poms qui incarnent totalement le American way of life. Mais saviez-vous que le cheerleading est un sport à part entière, bien loin des clichés des séries et qu'il existe même plusieurs milliers de pratiquants et pratiquantes en France ? Dans l'épisode du jour, j'ai voulu en découvrir un peu plus sur cette discipline qui déchaîne les passions outre-Atlantique et qui se développe de plus en plus dans l'Hexagone. Pour ce faire, je suis allée rencontrer Élise, Mathieu et Summer, tous trois cheerleaders dans le meilleur club de France, le Paris Cheer. Vous en apprendrez sûrement beaucoup sur ce sport et ses coutumes parfois surprenantes et bien plus inclusives qu'on ne pourrait le croire. Désolée par avance, ça va parler fort English dans cet épisode, but rassurez-vous, ça vaut le coup. Allez, let's go! Salut tout le monde!
Hello. Bonjour!
Ah, j'adore à chaque fois! J'adore ces bonjours collégiales, je trouve ça tellement extraordinaire, ça me met une petite excitation!
Ça lance l'aventure!
Exactement! Alors, bonjour à tous les trois, vous êtes trois aujourd'hui. Attention, gros enregistrement là avec beaucoup de monde.
Grosse prod!
Grosse prod! Je suis contente de vous avoir aujourd'hui pour parler d'un sport que je connais assez mal et pourtant je dois dire que c'est un sport qui est pas si éloigné de celui que j'ai fait pendant 15 ans. Je pense qu'il y a pas mal de points communs. Donc je suis contente qu'on puisse être là aujourd'hui et en parler parce que je crois que vous avez trois parcours assez différents pour être arrivé à un sport qui est le
cheerleading. Applaudissements. oui, effectivement, on est trois ce soir pour partager une passion qu'on a en commun, une passion qui nous anime depuis plus ou moins longtemps selon les cas, qui est le cheerleading, un sport peu commun. Et on a hâte de vous raconter en quoi ça consiste.
Toutes les histoires. Non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez vous présenter si vous le voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais...
Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Élise, j'ai 32 ans, je fais du cheerleading depuis 11 ans et je suis l'un des membres fondateurs du club Paris Cheer, club de cheerleading parisien. Et voilà, je passe la parole à Mathieu.
Du coup, moi, c'est Mathieu, j'ai 25 ans et je fais du cheerleading depuis maintenant 6 ans et je suis le coach de Élise.
Ah, c'est vrai.
Avec Summer.
Du coup, moi, c'est Summer. J'ai 21 ans et ça fait 13 ans que je fais du cheer.
Tu l'as dit, vous avez des âges différents, des femmes, des hommes. C'est très bien, je suis contente d'avoir des hommes aussi sur le podcast. C'est rare, donc tant mieux. Comment vous êtes arrivée au cheer ?
Alors, pour ma part, j'ai découvert le cheerleading dans la culture populaire américaine, comme beaucoup de gens, sans trop savoir ce que c'était, donc dans les séries, dans les films. Je passais pas mal d'été aux États-Unis, donc j'avais une petite appétence pour les teen movies et autres séries.
On adore.
Voilà. Donc j'avais découvert ça, je savais que ça existait en tout cas grâce à ça. Et puis, il y a une fille que je connaissais qui a commencé à en faire en France un été où j'étais aux États-Unis. Et je lui ai dit, mais c'est trop bien ce sport, j'aurais adoré faire ça quand j'étais petite. Elle m'a dit, en fait, tu peux le faire maintenant, même si t'es pas petite. Et donc, j'avais 21 ans et j'ai découvert un club à Lyon qui s'appelle le club des Jaguars, qui existe encore. Et donc, j'ai commencé chez eux, sans savoir où je mettais les pieds, juste parce que j'avais envie de m'amuser. Et j'en ai bien bavé à mon premier entraînement. Et j'ai quand même assez aimé ça pour continuer à en faire 11 ans après.
Très bien. Et toi, Mathieu ?
Moi, c'est complètement différent d'Élise. Donc, du coup, quand j'ai commencé mon école d'ingénieur, j'ai recherché une association pour faire du sport.
Ouais.
Et de base, je faisais de la gymnastique. Et du coup, il n'y avait pas d'association qui faisait de la gymnastique, mais il y avait une association qui faisait du pom-pom girl.
Mm-hmm.
Et du coup, je me suis dit, j'étais un peu réticent avec tout ce qu'il y avait autour par rapport au nom pom-pom girl. Et du coup, au début, j'y suis pas allé. Et après, on m'a dit, allez, viens, teste. Il y a les hommes derrière qui font des portées. Je fais, je vais tester, c'est super.
Que tu voyais déjà avec les pompons, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Moi, je me voyais avec les pompons, avec la danse. Et je me suis dit, j'étais assez timide à l'époque. Je me disais, non, c'est pas du tout moi. J'ai pas du tout envie de faire ça. Et après, on m'a dit, il y a un côté aussi gymnastique. Tu pourras faire des saltos. Et après, on va faire des portées. Du coup, j'ai testé et j'ai adoré. Et après, on m'a dit, il y a une des personnes qui faisait partie de l'équipe Paris Cheer et qui m'a dit « Ah tiens, t'as envie de tester le cheer dans un club à Paris Cheer ?» Et j'ai fait « Vas-y, je suis chaud, j'ai trop envie. » Et c'est comme ça que je suis rentré à Paris Cheer il y a maintenant 6 ans.
Et on reviendra justement sur la différence pom-pom et cheer parce que je pense que beaucoup de gens font un peu l'amalgame. Avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer, Summer, comment
bien
tu
sûr,
es arrivée
bien
parce que
sûr.
Toi, t'étais toute petite, quoi.
Oui, j'ai commencé quand j'avais 8 ans. Et c'était juste au forum des associations de ma ville. C'était en septembre, c'était la rentrée. Fallait retrouver un sport et j'avais déjà fait de la danse classique et j'avais fait aussi de la GR pendant quelques années. Et moi, j'étais partie dans l'optique de me réinscrire à la GR parce que je me plaisais dedans. Et je suis passée devant ce stand où il y avait des vidéos et je voyais des filles voler. Et forcément, j'ai bloqué devant. Et on m'a vendu un peu le sport qu'on voit dans High School Musical, qui était mon film préféré, évidemment, que je me rends compte plus tard, des années plus tard, qu'on voit pas du tout dans les films. Mais dès ce moment-là, je me suis dit, OK, moi, j'ai envie d'être elle, là-haut, qui vole, qui est en train de faire des trucs de dingue. Et ça a commencé comme ça, dans mon petit club à Bayrouin-Villiers, les Dragons, qui existent aussi encore, où j'ai passé quand même 7 ans. Et où j'ai aussi coaché, j'ai commencé à coacher là-bas. Et maintenant, ça fait 5 ans que je suis à Paris Cheer.
Ok. Donc effectivement, vous avez des parcours, mais complètement,
différents.
Complètement différents. Est-ce que vous aviez... Alors, on sent quand même, en tout cas pour toi, Élise, qu'il y a une grosse influence des États-Unis pour le coup. C'est là-bas que que t'as connu ça, c'est ce qui t'a intéressé. C'est tout le folklore, si je puis dire,
complètement,
autour,
ouais,
autour
c'est très
de ça.
C'est très juste. La pop culture, vraiment. Ouais.
On y reviendra aussi après, parce que c'est vrai que c'est fou et c'est vrai que la discipline du cheer, on la voit, mais partout, dans les séries, dans les films, c'est vraiment quelque chose qui est assez prégnant. Vous, pour le coup, c'est assez différent, c'est plutôt un hasard, finalement.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Moi, j'avais l'impression que pour arriver au cheer, finalement, il fallait... Alors, c'est peut-être des images que je m'en faisais, mais en tout cas, il fallait avoir commencé par la gym ou par la danse. Enfin, c'est marrant, c'était un peu l'image que je m'en faisais.
Vas-y. Il y en a beaucoup, en vrai, qui nous demandent ils n'ont jamais fait de sport avant ou ils viennent de quelque chose de complètement différent. Tout le monde, est-ce que je peux me lancer dedans ? Et, bien sûr, pourquoi pas, allez-y. Parce que on a tous commencé quelque part, j'ai envie de dire. Et donc, tout s'apprend. Et on peut tous monter au niveau qu'on
sans
souhaite,
avoir
quoi.
Forcément de base gymnique à la base.
En fait, c'est comme plein d'autres sports, mais en fait, ça aide. C'est sûr que ça aide d'avoir fait de la gymnastique ou d'avoir fait... En fait, ça aide d'avoir fait du sport et d'avoir fait des sports qui permettent d'avoir une bonne conscience de son corps, une bonne conscience de ses muscles, une bonne conscience de son corps dans l'espace ou avec les autres, parce que c'est aussi un sport de contact, c'est un sport d'équipe. Donc ça aide, mais moi avant j'ai fait du basket, donc ça n'a rien à voir.
Tu lançais des choses en l'air.
Ouais, je lançais un ballon, voilà, exactement, et je savais le rattraper, donc c'est peut-être pour ça que je sais bien rattraper mes flyers. Non, c'est vrai que la particularité et ce que je trouve vraiment cool d'ailleurs dans ce sport, c'est qu'il y a plusieurs rôles. C'est un sport qui est pluridisciplinaire et du coup, quelque part, peu importe un peu le gabarit, peu importe les compétences initiales, entre guillemets, comme l'a dit Summer, tout s'apprend. Mm-hmm. Et en fait, selon la morphologie, selon si on est un garçon, selon si on est une fille, selon ce qu'on aime faire, selon si on a le vertige ou pas, en fait, il y a de la place un peu pour tout le monde. Et je trouve que c'est ça une des vraies différences de ce sport par rapport à plein d'autres sports que moi j'ai pu tester. C'est qu'il y a vraiment le côté qu'il y a de la place pour tout le monde, que l'union fait la force et que justement, c'est par la diversité des profils et des corps qu'on va réunir dans une équipe qu'on va pouvoir produire quelque chose ensemble de cool. Donc voilà.
Il y a des petits pouces qui se lèvent là, vous pouvez pas les voir, mais tout le monde approuve. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, mais effectivement, on associe beaucoup aussi le cheerleading au pom-pom girl. C'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence?
Du coup, il y a une grande différence entre le pom-pom et le cheerleading. Donc de base, le cheerleading, ça vient quand même de... C'est un sport où on va cheer pour une équipe. Donc on va encourager l'équipe. Et du coup, il y avait des portées, il y avait de la danse, c'est assez diversifié. Et après, il y a le cheerleading un peu plus construit, donc c'est-à-dire là, on va faire une routine de 2 minutes 30 qui est apparue. Et du coup, c'est là où il y a un peu, j'ai l'impression, une petite séparation entre le pom-pom. Mélis, tu pourras revenir là-dessus.
Est-ce que c'est, du coup, c'est un aspect un peu plus sportif?
J'aime pas trop dire ça parce que ça reviendrait à dire que les danseurs ne sont pas des sportifs.
Ça, c'est assez différent, on va dire.
Ouais, en fait, le mot pom-pom girl, c'est un peu bête, mais aux États-Unis, il n'existe pas.
Okay.
Le cheerleading, c'est un sport américain. Et aux États-Unis, quand on dit cheerleading, on peut autant parler de l'équipe de danseuses avec des pompons qui encouragent les Dolphins ou les Dallas, parce que c'est les plus connus, qui, elles, ne font pas du tout de portée et qui sont quand même appelées cheerleaders. Et on parle aussi des cheerleaders qui font des portées, des pyramides, etc. Donc, le mot pom-pom girl, je me demande même s'il n'a pas été inventé par un francophone qui devait décrire ce qu'il voyait et qui voyait des filles avec des pompons et qui s'est dit « je vais appeler ça pom-pom girl ». Mais en fait, aujourd'hui, il y a quand même une discipline qui a émergé qui, pour moi, s'apparente plus aux pom-pom girls, qui est du cheer dancing.
On appelle le cheer pom-pom aussi.
Voilà, cheer pom-pom, cheer dancing. Donc, c'est vraiment de la danse avec des pompons. Mm-hmm. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on appelle cheerleading et ce qu'on pratique, c'est pas ça.
Ouais.
C'est un Summer, je sais pas si tu vas raconter, mais les différents, de quoi est composé en fait le cheerleading?
Alors notre cheerleading, on va dire, comme Mathieu l'a dit, on s'entraîne en fait toute l'année sur une routine de 2 minutes 30
un enchaînement.
Ouais, voilà, c'est ça, un enchaînement avec, donc on va trouver des sauts, de la danse, des portées, des lancers, de la gymnastique au sol, plein de transitions, plein de performances, plein de shows. Et voilà, on va travailler ça en s'adaptant en fonction de nos compétitions, en fonction des retours qu'on peut avoir des différents juges par rapport aux compétitions. Tout dans l'objectif. Bon, nous, nos grandes compètes, c'est les championnats du monde. Et on a aussi une grande compétition en Europe qui s'appelle ECC en Allemagne. Et voilà, en fait, on va s'entraîner toute notre saison pour perfectionner cet enchaînement-là. Et pour gagner, en fait.
Ça reste une compétition, voilà. Quand même.
Oui, c'est un sport de compétition. Oui. C'est un sport, parce que c'est pareil. Oui. Hein, il faut mettre le mot sport sur cette discipline-là. Mm-hmm. Et pour revenir un petit peu, parce que c'est vrai que du coup, vous expliquez ce qu'est le cheerleading, mais ça vient des États-Unis. Est-ce qu'on peut expliquer la genèse? Moi, j'ai lu que ça avait, à la base, c'était les hommes.
Oui,
incroyable.
C'est incroyable, c'est vrai.
Effectivement, c'est un sport qui est né aux États-Unis dans les universités de la Ivy League, qui est même né à Princeton, où en fait, à la base, c'était des hommes qui, pendant un match de foot, avaient commencé à entraîner la foule, à encourager les athlètes. Et donc, ça s'est un petit peu démocratisé dans différentes universités. Il y a des équipes qui se sont créées d'hommes. Et au moment de la Seconde Guerre mondiale, les hommes sont partis à la guerre. Et du coup, les filles ont commencé à rentrer un peu dans le game et à prendre la place des hommes pour encourager la foule à encourager les athlètes. Mm-hmm. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sideline cheer. Donc c'est le cheerleading du bord des terrains qui a, et c'est la genèse du sport comme tu l'as dit, qui avait pour vocation d'être là pour divertir le public et encourager les athlètes qui étaient sur le terrain. Et année après année, le sport, il a évolué. Il est devenu pas, je vais pas dire exclusivement féminin parce que ce serait faux, mais les femmes ont vraiment
féminisé, en tout cas,
c'est féminisé, mais presque à un extrême. Et là, on est en train d'y revenir, enfin de revenir un petit peu à une discipline un petit peu plus mixte. Mais voilà, et donc le sideline cheer s'est développé dans plein d'universités, puisque le sport universitaire, on sait qu'aux États-Unis c'est très très important, et que le show autour du sport est très important aussi aux États-Unis, donc de fait le sideline cheer s'est développé. Et en fait, à un moment donné, il y a eu un switch qui s'est fait quand on a commencé, dans le cadre du cheerleading, à créer des routines. Et là, en fait, finalement, c'est devenu un sport indépendant qui n'était plus là uniquement pour faire le show pour d'autres sports ou pour d'autres athlètes. C'est plus devenu finalement un élément d'entertaining durant un autre match. C'est là que, en fait, ça s'est structuré, qu'il y a eu des compétitions et que c'est devenu un sport à part entière qu'on pouvait pratiquer en compétition.
Ça, c'était dans quelle... Alors là, je vais demander des années, mais pour qu'on puisse s'identifier un petit peu par rapport à notre période. Vous ne savez pas, Elisa des notes.
Ouais, non, j'ai pris ma... En fait, j'ai l'impression d'être au bac et d'avoir, tu sais, les
grandes fiches.
La chronologie de l'histoire du monde. Ouais, non, en fait, c'est le cheerleading en compétition, ça s'appelle le cheerleading All-Star.
OK.
Qui est donc différent du cheerleading dit universitaire ou high school cheer. Et ça, c'est né dans les années 80, le cheerleading All-Star. Donc, la première compétition, elle date à peu près de cette époque-là.
Une quarantaine d'années, quoi, en gros.
Voilà. Et en fait, c'est un sport qui est assez récent. Hein. C'est un sport qui a une centaine d'années. Donc, en fait, c'est de facto tout ce qui en découle, bah, ça se construit petit à petit. Et même aujourd'hui, le sport tel qu'on le pratique, donc, comme Summer l'a décrit, donc avec une routine d'environ 2 minutes 30 qui permet à l'équipe de réaliser en synchronisation sur une musique... des éléments, donc des portées, des pyramides, des sauts, de la danse et du tumbling. Même ça, en fait, c'est en train d'évoluer, la manière dont c'est pratiqué, avec les 2 minutes 30 jugées, donc avec des juges qui regardent la routine et qui la notent comme on note beaucoup de sports artistiques.
Tout à fait.
C'est le même principe. Même ça, c'est en train d'évoluer. Aujourd'hui, il y a une discipline dans le cheerleading qui se développe qui s'appelle stunt et qui est en fait des matchs. Et c'est fou de se dire ça, mais en gros, c'est des équipes de cheerleading qui s'affrontent sur les catégories que j'ai citées. Donc, elles vont d'abord s'affronter sur des pyramides, puis sur des portées, puis sur du tumbling. Et elles ont la même performance à faire. Et c'est l'équipe qui la reproduit le mieux, qui remporte. Donc ça, je crois qu'en France, ça n'existe pas encore.
Non, pas du tout.
Mais donc, en fait, c'est un sport tellement récent qu'aujourd'hui, il est en train d'évoluer rapidement. En fait.
Perpétuelle mutation.
Exactement.
Je comprends, parce que c'est vrai que quand t'expliques les choses, ça peut paraître un peu compliqué, parce qu'on n'a pas forcément les termes. Déjà, il faut savoir ce que c'est que du tumbling. Bon, les pyramides, on s'imagine à peu près, parce que tout le monde a de l'acrogyme à peu près.
Ouais, c'est ça.
Donc bon, mais c'est vrai que ça paraît assez complexe. Après, effectivement, si vous avez déjà eu l'opportunité de regarder une routine de cheer, vous pouvez un petit peu plus vous projeter dans ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est assez complexe.
Pour quelqu'un qui connaît pas, c'est très très confus comme.
Il y a beaucoup de mots de vocabulaire
en anglais en plus
oui. qu'on connaît pas quand on commence le cheerleading et on apprend au fur et à mesure tous les mots.
Et comme vous le disiez tout à l'heure aussi, il y a ceux qui portent, donc ça, c'est un nom.
Les bases.
Ceux qui volent.
Les fly. Voilà. Les flyers, nom complet. Et après, on a aussi derrière, parce qu'il y a plein de catégories aussi quand on fait et du partner. Donc ça, c'est que 2 personnes, c'est une base et une fly.
D'accord.
Il va y avoir du groupe stunt, où il va y avoir donc 2 bases, une back et une fly.
Alors qu'est-ce que c'est back
Donc en fait, c'est derrière les bases, parce que les bases, elles vont être face à face. D'accord. Et la back, elle va être derrière au niveau des chevilles.
Okay.
Les bases, elles vont être en dessous des pieds et la back, elle va être au niveau des chevilles.
Donc, elle back, donc effectivement, c'est vraiment ça, c'est le dos, quoi.
Voilà, c'est la sécurité, le porté derrière, quoi.
Elle a aussi les pieds sur le sol.
Oui.
c'est aussi une base, sauf qu'elle a un poste spécifique, effectivement, à l'arrière du porté.
D'accord. OK.
Et après, quand on rassemble plusieurs groupes stunt, on fait une équipe de cheerleading et on fait...
Pour la pyramide.
Voilà, une pyramide.
Mais il y a aussi du two base, où on a 2 bases et une fly. Donc, il y a beaucoup de critères.
Et les derniers, c'est les tumblers. C'est ceux qui font de la gymnastique, les saltos et tout ça.
D'accord. Ouais,
donc, base, flyer et tumbler, c'est les rôles principaux.
Bah,
OK. Toi, à la base, tu faisais de la gym.
J'ai fait de la gym et du coup, je suis rentré dans l'équipe en tant que tumbler, comme on dit, pour faire de la gymnastique. Mm-hmm. Et au fur et à mesure, j'ai appris à stunt, Donc j'ai appris à faire des portées.
D'accord.
Et du coup, maintenant, j'ai le rôle, ce qui s'appelle Stumbler. Donc c'est stunt et tumbler.
Oulala.
Donc du coup, je fais du stunt et du tumbling.
Bah, d'accord.
C'est sûr que Mathieu, il est le type de cheerleader, un profil de cheerleader très recherché, puisqu'il est Imagine. Capable de faire les deux.
Il est polyvalent.
Exactement. Hashtag polyvalent. non, c'est vrai que c'est très recherché. Pourquoi ? Parce que, en fait, les éléments de tumbling, selon moi, c'est les éléments qui sont les plus longs à acquérir. Mmh. Et du coup, quand on a quelqu'un qui arrive et qui sait déjà faire ça, et ben, entre guillemets, il peut évoluer, enfin faire évoluer évidemment ses compétences en tumbling et apprendre la deuxième partie du sport qui est sur les portées ou même les sauts.
Là et... où avoir des bases gymniques, ça oui. aide un Exactement. Petit peu sur ce genre de
parce qu'on a, on a aussi les muscles, on a les muscles, on va dire, rapides, c'est-à-dire on est assez explosif. Mmh. Et le cheerleading, c'est quand même un sport où il faut être assez explosif. Donc du coup, c'est, ouais, c'est vraiment un avantage d'avoir fait de la gymnastique.
Bon, maintenant qu'on a compris à peu près, comment se structurait finalement la discipline et d'où ça venait. En fait, on l'a vraiment dit, le cheerleading, c'est un sport américain.
Ouais, ouais, ouais. Non, c'est un sport américain. Il a encore le nom de la discipline aux États-Unis. C'est eux qui l'ont inventé, c'est aujourd'hui eux qui excellent.
Qui excellent, pardon.
Ouais, vas-y, non mais c'est ça.
Bah, c'est eux qui excellent en fait, encore.
Et ils sont vraiment les leaders sur le développement de la discipline. Et effectivement, les autres pays ont...
On les suit.
Ouais. On les suit, on les copie.
Ouais, on les suit, on les copie, on court un peu derrière. Et après, évidemment, on est obligé d'un peu s'adapter parce qu'on n'a pas la même culture du sport, pas les mêmes infrastructures, le sport n'a pas non plus la même notoriété. Mmh. Et on n'a pas les mêmes formations, il n'y a pas la même gouvernance. Donc, en fait, forcément, tout ça, ça demande une adaptation qui est différente pour chaque pays.
Bien sûr.
Mais aujourd'hui, c'est assez récent, je pense que ça fait quelques années, mais il y a d'autres pays que les États-Unis qui commence à avoir des premières places sur les podiums dans les compétitions internationales. D'accord. Donc, ah ouais. En fait, c'est possible et ça va venir. C'est juste, encore une fois, que la discipline elle est tellement récente que forcément, c'est ceux qui l'ont créée pour l'instant qui ont le monopole ouais. et l'avantage, exactement.
On a encore besoin d'un petit peu de temps pour les rattraper, en fait.
Et pour qu'on se rende compte aussi, je crois qu'il y a plus de 3 millions de pratiquants ouais. et pratiquantes aux États-Unis, c'est ça ? Mm-hmm. Et dans le reste du monde, moi, j'ai lu à peu près plus de 100 000. Quelque chose comme ça ?
Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais. Et en plus, c'est, comment dire, il y a pas mal de pays où il n'est pas nécessairement structuré de la même manière. Donc, je pense que c'est même difficile de compter. Parce qu'en fait, entre les équipes universitaires, les équipes donc All-Star qui sont dans des clubs, déjà, rien que ça, ça ne dépend pas des mêmes fédérations. Il y a des pays où il y a plusieurs fédérations qui ont la gouvernance. Donc, c'est difficile, je pense, de compter exactement le nombre qu'il y en a, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins développé. Et puis, il y a des pays dans lesquels c'est reconnu comme étant un sport de haut niveau. Ce n'est pas le cas de la France, par exemple. Mm-hmm. Donc c'est sûr qu'il y a... oui, on a aujourd'hui du chemin encore à parcourir. Mais en vrai, c'est... En tout cas, c'est une discipline qui se popularise énormément. Mathieu va pouvoir en parler après, mais il y a Netflix nous a beaucoup aidé à faire connaître le sport parce que du coup il y a un show qui s'appelle Cheer qui est sorti et qui a permis de révéler un peu au plus grand nombre d'une part l'existence du cheerleading ou en tout cas de corriger un peu l'image cliché qu'on pouvait en avoir et de lui rendre un peu sa valeur athlétique par rapport à vraiment au cliché et à l'image que pas mal de gens pouvaient s'en faire. Et pourquoi je dis que Mathieu va pouvoir en parler sans transition, c'est parce que ce show Netflix Cheer, il suit le développement en compétition de la meilleure équipe universitaire dans le monde.
Aux États-Unis. Dans le monde, ouais.
Qui s'appelle donc Navarro. Et donc Mathieu va raconter pourquoi est-ce que je lui laisse la parole sur le sujet.
Je trouve que tu le lances bien. C'est, ouais. Merci, c'est un très bon lancement.
Ouais. Donc elle en parle parce que du coup j'ai passé les sélections la semaine dernière pour l'équipe Navarro.
D'accord.
Et j'ai été sélectionné et du coup l'année prochaine je rentre dans le cursus on va dire universitaire américain pour faire du cheerleading à haut niveau.
Incroyable, ça mérite des applaudissements.
Ouais. Ah oui, on est hyper fiers.
Ouais, hyper fiers. Ah oui. Voilà. Ça, on va dire, un petit rêve d'une vie. Et du coup, j'ai... voilà.
Main sur le cœur, petit team américain, du coup.
J'arrête mon travail d'ingénieur et...
C'est vrai, c'est vraiment...
Ouais, j'arrête tout et je vais partir aux États-Unis, du coup, pendant au moins un an, faire du cheerleading à très haut niveau.
Alors ça, du coup, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que, bon, on l'a compris, les États-Unis, c'est vraiment... Le berceau du cheer, ouais. Y a des possibilités pour des étudiants ou même non étudiants européens ou d'ailleurs.
Il faut quand même être étudiant parce qu'on est affilié à une université.
D'accord.
Et du coup, je vais avoir des cours dans l'université de Navarro et je vais faire en plus du coup du cheerleading.
C'est comme une sorte d'Erasmus, d'échange.
D'échange, ouais, c'est ça. Ouais.
D'échange, mais un échange universitaire qui a pour but le cheer, quoi.
Ouais, oui, c'est ça.
Ok.
Et là, du coup, Mathieu, il le fait alors qu'il a déjà commencé à travailler et tout. Il n'est pas si vieux que ça, mais du coup, effectivement, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas un sport professionnel. Mm-hmm. Personne n'est, à ma connaissance, payé pour faire du cheerleading en compétition. Les gens qui gagnent leur vie... par le cheerleading, c'est parce qu'ils sont gym owners, donc ils ont créé leur club.
D'accord.
Ou parce que ils ont décidé d'utiliser le cheerleading comme dans un show et dans un spectacle. Et du coup, ils sont comme, on peut dire, un peu des gens qui feraient du cirque ou ce genre de choses, mm-hmm. et ils sont payés pour faire ce show-là.
Ça devient des artistes.
Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Ça devient des artistes et ils sont pas payés en tant qu'athlètes, ils sont payés en tant qu'artistes, on va dire. Mais et les gens qui rémunèrent leurs services de coaching, de création de routine, parfois dans le monde entier ou au sein d'un club. Aujourd'hui, c'est comme ça que sont rémunérés les gens qui travaillent dans l'industrie du cheerleading, mm-hmm. ou quand ils organisent des compétitions aussi. Mais il n'y a pas d'athlète, professionnel payé pour faire du cheerleading. Au contraire, je vais même dire que c'est un sport qui nous coûte très cher.
Ouais, bah ouais. Bien sûr, non mais c'est vrai.
Il faut le dire.
Et comme beaucoup de sports, malheureusement, payer le matériel, les tenues, les licences potentiellement. Mmh. Enfin voilà, il y a
gymnases.
Beaucoup de choses. Les gymnases, ça revient vite cher.
Mmh. J'ai envie de dire que nous on a de la chance un petit peu parce qu'on a notre grand club quand même qui reste à proximité et que voilà, on a de la chance que Paris ait plein de transports. Mais il y en a même dans nos équipes, ils viennent de loin. En France ou de l'étranger pour être sur les équipes à Paris Cheer. Mais ça se voit aussi, par exemple, je peux dire au Canada ou aux États-Unis, où il y a des athlètes qui vont faire 3 heures de voiture pour aller à l'entraînement X fois par semaine. Quoi.
Ouais, des
mains
boules.
Ouais, c'est du sacrifice, mais bon, ça en vaut le coup. Quoi.
Et justement, comment ce sport s'est démocratisé en France, en fait comment, d'ailleurs, qui a eu l'idée de créer ce club en France? Et voilà, comment ça se démocratise dans les autres pays?
Alors, en France, c'était une femme d'un joueur de NBA.
D'accord, donc une américaine?
Non, elle n'était pas américaine.
Ah, d'accord.
Elle était française,
okay.
Si je ne me trompe pas. Et donc, elle a suivi son mari aux États-Unis. Là-bas, elle a découvert les cheerleaders de NBA. Et donc, intriguée, elle a fait des camps et un peu des stages de cheer en Floride. Et du coup, quand elle est revenue en France, c'était en 2000, quelque chose comme ça, elle a décidé de créer un club qui est Dijon Cheer, qui existe aussi encore.
D'accord.
Et à partir de là, elle
a été le premier club en France.
Oui, c'était le premier club en France. Et à partir de là, ça s'est développé et...
En fait, voilà, les premiers clubs qui se sont créés, effectivement, c'est des initiatives indépendantes, on va dire. Ouais. Donc, effectivement, c'est un bon exemple et c'est le premier. Moi, si je parle du club dans lequel j'ai été, les Jaguars, il a été créé par un ancien gymnaste qui, clairement, s'est mis à coacher et avec ses compétences et avec des vidéos YouTube. Et on était... Enfin, je vais pas arrêter hyper vieille en disant ça, c'est horrible. Mais c'était quand même déjà il y a quelques années. Il y avait beaucoup moins de contenu sur Internet. Les gens en partageaient beaucoup moins. Et donc, en fait, il a inventé le cheerleading comme il pouvait avec ce qu'il savait, quoi.
Les outils qu'il avait.
Ouais, exactement. C'est ça, exactement. Et donc, on va dire qu'il était gymnaste. Donc, il avait du coup une base, encore une fois, de physique, musculaire, corporelle qui pouvait aider. Mais on va dire que les premiers clubs qui se sont créés, c'était par leur expérience à eux, par leur ancienne expérience dans d'autres sports ou par l'image qu'ils en avaient eue à la télé, on va dire.
C'est exactement ça.
Donc effectivement, au début, il y a eu plein d'initiatives un peu autonome et indépendante, mm-hmm. jusqu'à ce que ça se structure un petit peu plus, qu'il y ait aussi des clubs qui se créent, on va dire, en parallèle du développement du football américain en France.
Ouais.
Il y avait des clubs
de fédération d'ailleurs en France.
Exactement. Oui. Il y avait des clubs de football américain qui se créaient et du coup il y avait des équipes de cheerleading qui se greffaient ou qui se créaient en parallèle. Et voilà, et donc ça, je pense que ça a été le...
Ça a été les prémices en France, en fait, finalement.
Ça a été le quart de partout, enfin voilà, c'est ce que j'allais dire. Pareil pour le club d'où je viens, les Dragons. Ça a commencé, c'était, voilà, c'est en fait une association qui a commencé, une ancienne gymnaste de GR.
D'accord.
Qui, avec, en partenariat un petit peu avec, avec une connaissance à elle, qui lui faisait du baseball. Et donc, ils ont lancé cette association de cheerleading des baseball et ça s'est développé à partir de là. Même si on n'était pas forcément là pour faire du sideline cheer, on pouvait aller à leurs matchs de temps en temps. Mais c'est parti à partir de là et ça s'est développé depuis, en fait, c'est ça.
Vous le dites, le modèle, il a été calqué forcément sur ce qui se passait aux États-Unis. Est-ce que maintenant, ça fait 20 ans à peu près que ça arrivait en France, est-ce que vous avez quand même une possibilité d'adapter, si je puis dire, le cheer à une French touch? Ou est-ce que vraiment, pour le coup, ça a l'air d'être une discipline tellement marquée, tellement... Il y a tellement de codes, en fait, on a le sentiment dans cette discipline.
C'est très codé.
Voilà.
Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est une discipline qui est hyper codée. C'est quand on commence le cheerleading, on rentre dans un univers parallèle, quoi. Et encore une fois, moi, pour avoir fait beaucoup de sports différents, effectivement, la culture sportive et qu'il y a presque autour de la pratique de ce sport, elle est assez unique. Et moi, je l'ai pas forcément retrouvée dans beaucoup d'autres sports. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une French touch. Pour moi, les adaptations qu'on est obligé de faire, elles sont en termes de niveau, parce que vu que la discipline est plus récente et que on a que les coachs aujourd'hui qui coachent des équipes de cheerleading en France, leurs formations, elles sont récentes, ils sont jeunes. Donc le temps, en fait, finalement, que toute la structuration se mette en place avec des formations pour coacher, pour apprendre toutes les techniques de cheerleading, tout ça, ça prend du temps. Donc le niveau, forcément, ça doit s'adapter. Le matériel aussi qu'on a à disposition. Aujourd'hui, les infrastructures en France, même si nous, on a des besoins en infrastructures qui sont similaires à la gymnastique, impraticables, dynamiques, et on va dire du matériel pour apprendre le tumbling.
Ouais.
Aujourd'hui, tous les clubs de cheer ne disposent pas de ça. Et donc, du coup, forcément, les routines françaises, il y a moins de tumbling dedans.
D'accord.
Ouais. On ne peut pas... C'est surtout d'un point de vue de sécurité qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas tenter, on va dire.
Ouais,
parce qu'il faut savoir qu'en France, là maintenant, il n'y a pas un seul club qui a son propre local, en fait. Pendant quelques années, les Dragons, ils en avaient. Mais aujourd'hui, aucun club n'a
son gymnase,
son espace avec son matériel. La plupart, c'est des salles de la ville, des municipalités, où nous, on s'entraîne dans une université. C'est plutôt des choses comme ça, en fait.
En d'autres gymnases, on fait dans la gymnastique, du coup, des gymnases de certaines villes où...
Oui, et je pense qu'il y a plein de cheerleaders en France qui ont commencé à pratiquer sur des petits tapis de tapis de gym, judo, de tatami, exactement.
Dans des salles polyvalentes, dans les écoles. Mais après, c'est même ça, c'est en termes d'infrastructure, au bout d'un moment, à partir d'un certain niveau, à partir d'un certain âge aussi, on a besoin de hauteur pour pouvoir faire nos... que ce soit les lancers, les baskets, on appelle ça des baskets.
tu vois, finalement,
il y a un lien.
Pour faire ça, ou même nos portées où on passe au niveau au-dessus de la tête, on va dire, que s'il n'y a pas l'espace nécessaire, que forcément ça va bloquer et que par sécurité ou par même impossibilité de le faire, que ça bloque en fait la progression en fait du sport.
Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est aussi un sport qui est relativement dangereux. Parce que vous envoyez quand même des personnes dans les airs.
Ouais.
L'idée, c'est quand même de les rattraper en entier.
Tout à fait.
Donc, effectivement, c'est aussi, vous dites, les infrastructures, mais il y a également, j'imagine, des règles de sécurité
Très important.
À respecter.
Ça, c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui est en train de se, comment dire, de se structurer. Évidemment, les premiers qui ont ramené le cheerleading en France, ils ont fait, entre guillemets, avec les moyens du bord, que ce soit en termes d'infrastructure ou de connaissances. Et du coup, c'est sûr qu'il y a des choses qui étaient, faites par des équipes plutôt débutantes, qui pouvaient sembler faciles, mais qui restaient dangereuses si on n'avait pas conscience, en fait, de ce qui était en train d'être pratiqué. Ouais. Donc, aujourd'hui, les règles de sécurité, et notamment les éléments qui sont autorisés dans différents niveaux, c'est en train d'être vraiment restructuré.
Mmh, c'est très réglementé.
C'est très réglementé. Et après, nous, ça fait partie effectivement des clichés, enfin, je sais pas si c'est un cliché, mais de l'image qu'on a du cheerleading, mmh, que c'est un sport dangereux.
Ouais.
Nous, chez Paris Cheer, la première chose en fait qu'on apprend aux bases,
c'est comment rattraper sa fly.
Exactement.
Et la première chose qu'on apprend en fly, c'est comment tomber correctement.
Voilà, parce qu'il y a quand même il y a de la confiance, ouais, entre la fly et la base. Parce que nous, moi, en tant que base, j'ai pas envie de rattraper une fly qui a un coude sur le côté, qui peut me donner un coup dans l'œil.
Oui.
Voilà.
Oui, parce qu'on se dit c'est celle qui est en l'air qui risque tout, mais en fait, oui, pas forcément.
C'est ça.
C'est pas ça.
Voilà. Mais après, les fly, elles ont confiance en nous pour les rattraper et les pas les rattraper n'importe comment pour qu'elles soient en sécurité. Et du coup, dans l'apprentissage du cheerleading, on apprend au fur et à mesure et on passe pas de faire un stunt tout simple, mm-hmm, à après lancer une fille qui fait un salto, on la rattrape.
Bien sûr.
Et ça, tout est très progressif.
Voilà, on fait très progressif et maintenant, on a, on va dire, assez de maturité pour savoir si une personne est prête ou il ou elle a besoin d'un peu plus d'expérience. Et du coup, on fait des stunts un peu plus simples pour la personne jusqu'à ce qu'elle ait assez d'expérience pour pouvoir faire des choses beaucoup plus complexes.
D'accord.
C'est très juste ce que tu dis, ouais, mais le mot maturité, c'est exactement ça, en fait. Le sport, il mûrit et on apprend en faisant, mm-hmm, pour la plupart d'entre nous. Et c'est vrai que c'est exactement ça. Une fois qu'on aura eu des mauvaises expériences, ouais, et ben on reverra, on va dire, les process et ça nous évitera les erreurs.
C'est ça, en fait. C'est faut pas essayer d'aller trop vite, même si on est pris dedans, on veut essayer plein de choses. C'est hyper important
d'aller
se poser
étape par étape.
Deux minutes et de faire étape par étape,
de
faire les exercices qu'on a besoin de solidifier les bases de l'élément qu'on veut faire, de notre objectif, et d'y aller très progressivement pour que même quand on arrive au point de faire cet élément final, entre guillemets, que ce soit propre, que ce soit safe et qu'on y arrive, en fait. Parce que ça n'a rien à aller trop vite parce qu'on va faire n'importe quoi. C'est ça, en fait. C'est beaucoup ça.
Ouais, et puis ce que dit Summer, ça me fait penser aussi que, en fait, ça reste quand même une discipline qui est jugée. Donc, où le but, c'est que ce soit fait et bien fait, que ce soit joli. Et ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'une routine, elle est réussie quand elle a l'air facile.
Ouais.
Mais c'est jamais facile.
Mmh. Non.
C'est pas encore partout, je dirais. Mais je pense que, nous, en tout cas, à Paris Cheer, on met vraiment l'accent dessus, j'ai envie de dire. Qu'on prône beaucoup plus l'exécution et que ce soit propre et que ce soit joli à regarder. Mmh. Plutôt que d'essayer de pousser la difficulté un max et que soit prendre le risque de tomber, prendre le risque de se faire mal ou prendre le risque que ce soit un truc un peu sloppy. Quoi,
mais ça fait partie des critères de notation, d'ailleurs. Oui.
Tu veux en parler,
Summer, sourire.
Oui. T'as jugé, toi, déjà.
Ouais, ça fait partie des éléments en fait, qui sont jugés pendant une routine. L'exécution, forcément. La difficulté prend sa place dedans. Parce que c'est par rapport au niveau. Le tumbling, la technique, beaucoup, beaucoup de petits détails. Mais on a aussi une grande partie de notre notation, on va dire, qui est partie de la performance et du showmanship, en fait.
Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'aspect ricain, quoi.
Oui, oui, voilà. Il faut penser à avoir l'air ridicule pour faire tout à fond. Et plein de grands mouvements, de grandes têtes. On dit tout le temps ouvrir la bouche, lever les sourcils, juste pour qu'on atteigne. Enfin, en fait, le but, c'est d'attirer l'attention du juge et de faire notre routine pour ce juge-là. Mmh. Et d'être sûr qu'on est en train d'impressionner, qu'on a l'attention de tout le monde. Et ben voilà, on doit donner envie à tout le monde de nous regarder et d'applaudir à la fin, quoi.
Ouais, c'est, j'ai l'impression que c'est never too much, quoi.
Never
too much. Non, vraiment, il y avait... Bah, en fait, c'est marrant parce que justement, nous, en tout cas, les deux head coach avec qui moi, j'écris.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Paris de Chir, ils sont américains tous les deux. Et c'est vrai que Brittany, c'était vraiment un de ses combats de faire comprendre, notamment aux flyers, parce que c'est elles qui sont dans les airs, donc on attend beaucoup d'elles en termes de performance. Elle leur disait tout le temps, en fait, si tu penses que t'es ridicule, ça veut dire que tu le fais bien. Donc, c'est vraiment ce truc. Et c'est là où il y a une différence de culture, vraiment.
Ouais, ouais, complètement.
C'est que, en fait, nous, en France, les premières fois, et je me souviens très bien, hein, les premières filles à qui on... La coach a dû apprendre à faire des faces, donc vraiment des réactions, des mimiques, en fait. Elle lui a vraiment dit, mais je vais être ridicule.
Ouais.
Et on lui a dit, non, c'est ça que tu... Justement, c'est ça que tu dois faire. Parce que, en fait, tu vas être jugée par des juges américains qui ont l'habitude de voir ça et qui attendent ça de toi. Donc, toi, en France, à Paris, ça te paraît ridicule, mais dans ton sport, c'est ça que tu dois
c'est
faire.
C'est la norme.
Et en plus, c'est quelque chose, malgré tout, on dirait pas, j'ai envie de le dire comme ça, mais c'est quelque chose qui est très, très dur à apprendre et à enseigner aussi. Mm. Parce que il y a certaines personnes, ça leur vient naturellement et font le show facilement. Mais il y a des personnes que, voilà, qui se sentent un peu ridicules, un peu timides, qui osent pas trop. Alors qu'il faut, vraiment, en fait.
Et ce que tu dis pas aussi, c'est à quel point c'est difficile de continuer de faire ça.
Oui.
Si en dessous de toi, en tant que flyer, si en dessous de toi, c'est chaotique.
Ouais, en fait, on dit souvent, c'est fake it till you make it. Donc, c'est vraiment, c'est de la performance, tu t'arrêtes pas, même si il manque quelqu'un en bas ou que t'es sur ton talon et que tu tiens pas debout, tu continues. Et en fait, faut distraire. Il faut que toute l'attention soit sur la fly en haut pour que les juges, ils voient pas que c'est un peu le bordel en bas. mais après, ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas quelque chose juste qui arrive d'un coup quand on est devant un public. En fait, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps pendant qu'on fait notre routine. Nous, on se prend des punitions si on n'est pas en train de performer pendant nos entraînements. Et c'est dur parce que malgré tout, ça ajoute un petit truc physiquement et mentalement.
Ouais.
Qu'on doit faire en même temps qu'on est en train de se donner à 8000% pour notre routine, on est déjà en train d'hyperventiler, quoi. Donc
toi, Mathieu, c'est intéressant parce que tu disais au tout début que t'étais quelqu'un timide.
Oui.
ce que disent quand même Summer et Lisa.
C'est vrai que le cheerleading, ça change beaucoup. Au début, j'étais quand même assez timide, justement. Moi, j'ai de la gymnastique, on n'a pas de performance, il n'y a rien.
Bah ouais.
On entre, on
c'est
lève,
très froid.
On lève le bras, on fait notre routine, on fait nos saltos, on lève le bras à la fin pour saluer les juges et voilà, il n'y a pas besoin de sourire. Et là, ça m'a beaucoup changé, le cheerleading, et ça m'a beaucoup ouvert l'esprit aussi. Et maintenant, je suis beaucoup plus ouvert, je parle beaucoup plus facilement. Maintenant, on a fait... comme on avait dit avant le podcast, qu'on a fait l'Accor Hotel Arena. On a fait une petite performance pendant un match de basket.
Un match de la NBA, ouais.
Ouais.
Non,
pas la NBA.
Non.
À quelques jours près, c'était ça. Ouais. Non, on a fait un match de l'animation d'un mi-temps de Paris Basket.
D'accord.
Mais bon, c'était quand même
la
NBA. L'arena était pleine à craquer.
C'est la LNB, c'est déjà pas mal.
C'est quand même pas mal.
Et du coup, même maintenant, voilà, j'ai pas de... Et maintenant, c'est devenu une habitude, on va dire. Donc, j'ai pas de stress et... Il y a la performance, maintenant, c'est devenu avec les années. J'ai appris au fur et à mesure de performer. Mais pour être honnête, ce n'est pas facile. Surtout, moi, on va dire, la routine de 2 minutes 30, elle est assez complexe. C'est assez cardio. Et essayer de sourire alors qu'on a, on a du mal à respirer. Mais il faut faire croire qu'on est en belle forme. On fait des motions, on fait tout, on sourit. On fait croire que tout va, mais au fond de nous, on est en train de mourir.
Non, effectivement, en fait, il faut... La performance, elle sert à divertir, et Summer l'a dit, mais elle sert aussi à masquer la douleur, la difficulté, la fatigue. Et en fait, arriver à faire ça, c'est un travail presque de comédien en plus du travail d'athlète, en fait.
C'est vrai que je trouve que c'est là où on se rend compte à quel point c'est empreint de la culture américaine. Mm. Je trouve que ce côté vraiment, comme vous le disiez, show-off, c'est le spectacle, on ne montre pas qu'on a mal. On sent qu'il y a une vraie exigence et une vraie rigueur aussi. Et c'est là où, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au show Netflix Cheer, on se rend compte de la difficulté de la discipline.
Ah oui.
Et à quel point c'est militaire presque, franchement.
C'est... Oui.
Ouais, bah après, ça, c'est aussi beaucoup une question d'ambition et d'objectif qui dépend du niveau et de l'équipe dans lequel on est et du coaching. Évidemment. nous, c'est vrai que chez Paris Cheer, et moi, c'est ça aussi que j'ai aimé chez les coachs qui ont créé le club avec moi. C'est ça que je recherchais aussi. C'est la discipline, la rigueur, le fait de se dépasser. Et tout ça, enfin, moi, c'est ce que je recherchais dans le sport. C'est ce que je recherche même encore maintenant. Et effectivement, là-dessus, moi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément. Découvert dans d'autres sports,
ouais.
D'avoir des attentes aussi hautes et d'avoir un engagement en fait physique, mental, pour soi, pour son équipe. J'avais jamais vécu ça dans aucun autre sport et c'est ça que j'apprécie dans ce sport-là. Mais ça, c'est vraiment, je pense, impulsé par les coachs qu'on a eus qui, eux, sont empreints de la culture américaine et essayent de nous la transmettre. Et ils cherchent pas du tout à intégrer une French touch, au contraire.
Ouais, 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 non. C'est vraiment se calquer sur le modèle américain, quoi. Mm. Est-ce que justement aussi, quand on voit comment ça se passe dans l'équipe Navarro aux États-Unis, on voit aussi que bah, des fois, ça va presque trop loin, qu'il y a des dérives, que c'est... On en arrive presque plus à une notion d'humanité, quoi. C'est vraiment la performance pour la... C'est vrai, c'est plus vraiment la... C'est la performance pour la performance. Et bah, si tu te blesses, bah, tu viens quand même et tu t'entraînes quand même. C'est presque ça, finalement. Est-ce que vous pouvez le ressentir aussi? Est-ce que, finalement, c'est aussi des choses qui viennent des États-Unis mais qui ne sont pas forcément positives et que vous pouvez pas envisager d'une autre manière en France? Enfin, comment ça se passe?
Je pense que ici. Enfin, je pense que c'est peut-être que c'est par rapport à l'équipe dans laquelle on, enfin, dans laquelle on est, parce que là, on parle de nos expériences à Paris Cheer, quoi. On a quand même beaucoup, beaucoup d'importance sur. Enfin, on sait que notre temps de repos pour parce qu'on a eu un entraînement hardcore ou parce qu'on s'est blessé ou quoi que ce soit, on le sait nous-mêmes que ce temps il est aussi important en fait que notre temps à l'entraînement, parce que. Si on se blesse et qu'on continue dessus, ça va s'empirer et puis ça ne sert à rien, entre guillemets, parce que pour avoir fait quelques entraînements en plus, ça va nous bloquer après pour le reste de la saison ou une compétition ou quelque chose de, j'ai envie de dire, de plus important. Donc, je pense que, en tout cas, ici, on prône beaucoup sur cet aspect-là, quoi.
Et la prépa physique. C'est-à-dire qu'en fait, on est, enfin, moi, pour le coup... Peut-être que l'exigence et le dépassement de soi, il vient des coachs et des États-Unis, mais l'importance de se préparer physiquement pour être capable de faire ça et la rigueur d'être capable de mettre des extra hours d'entraînement en dehors des entraînements imposés, ça vient aussi avec. J'ai envie de dire, l'un ne va pas sans l'autre.
C'est sûr.
Donc, et après, je pense aussi que... Enfin, c'est pas propre au cheerleading, en fait. Un athlète qui fait du sport, il se blesse. Il a des enjeux à sa saison, il a des objectifs, il a une ambition. Et de ne pas se reposer et de s'entraîner sur une blessure, c'est aussi un truc, comment dire, d'égo, presque un peu, de ne pas vouloir abandonner, de ne pas vouloir lâcher. En plus, quand on est dans un sport d'équipe, bah, on sait que quand on se blesse, on pénalise l'équipe.
Et puis, on peut se faire remplacer.
Et qu'on peut se faire remplacer.
Ouais.
Ouais, et qu'on peut se faire remplacer, effectivement.
Enfin, bon, là, du coup, la particularité du cheer... C'est que souvent dans les équipes, on est à un effectif, on va dire, plus élevé que nécessaire, enfin que le minimum recommandé, on va dire, pour construire cette routine. Et que bah, si quelqu'un se blesse, et bien, il y aura très certainement quelqu'un derrière pour step in pendant que la personne est blessée. Si c'est une période longue, bah, peut-être qu'elle va prendre sa place plus longtemps, plus définitivement. Et bah, puis ça aussi, c'est. Tout un truc qui vient en fait avec le sport, c'est d'être coachable, c'est de prendre sur soi et de dire ok, c'est pour le bien de l'équipe. Ça, c'est quelque chose de très particulier. et de se dire bon bah d'accord et je fais mon mieux sur les parties que j'ai encore ou je travaille à côté pour reprendre ma place.
Ça c'est très particulier quand même, cette concurrence interne pour une même team.
Non bah c'est vrai que en fait quand on construit la routine chacun, enfin en fait je pense que chaque athlète a un peu ses points forts et ses points faibles, les moments qui où il sait qu'il peut briller et où il peut performer et où il a envie d'être mis en valeur. On va dire que ça c'est assez humain finalement parce que chacun travaille un peu individuellement pour je sais pas avoir plus de souplesse, avoir des superbes sauts, avoir une vrille qui atterrit parfaitement sur les deux pieds. Mais effectivement, c'est le cheerleading, c'est des talents individuels réunis dans une équipe. Donc, c'est savoir mettre son talent individuel et personnel au service d'un collectif. Et quand Summer, elle dit être coachable, ça veut dire accepter que, en fait, c'est pas... It's not about you. Tu fais partie de quelque chose de plus grand et de plus important que toi.
Le projet.
Exactement, le projet.
C'est exactement ça.
Et okay. Ça, c'est sûr que c'est un vrai... c'est un challenge un peu... humain en fait, quelque part on est un peu dans notre micro-société où il faut à la fois être bon, valoriser les autres, les soutenir,
mais aussi se battre pour sa propre place. Mais
exactement,
et savoir laisser son ego de côté quand c'est pas toi qui as choisi.
Voilà. Ah, certainement. Oui. Ah oui ça
pour
c'est
avoir,
sûr
pour avoir donc parlé avec les athlètes de Navarro justement.
Ouais.
Eux, ils ne voient pas ça du tout comme quelque chose de négatif. Au contraire, pour eux, c'est un moyen de se motiver à travailler encore plus. Parce qu'en fait, ils savent que chaque personne qui est dans l'équipe, ça a été leur rêve. Et c'est leur rêve de faire la routine de 2 minutes 30. Donc du coup, ils savent que si jamais ils n'ont pas le niveau nécessaire, ou ils ne travaillent pas assez, il y a quelqu'un d'autre derrière qui, lui, travaille encore plus et qui va le remplacer.
Mmh.
Et du coup, moi, j'ai parlé avec d'autres personnes. C'est pas une compétition, on va dire, malsaine. Ils sont pas en train de dire « Ah, moi, je suis meilleur que toi, je vais y aller ». Au contraire, c'est beaucoup plus sain parce qu'au final, ils sont dans la même équipe.
Ouais.
Leur but, c'est de gagner et que c'est l'équipe qui gagne. C'est tout le monde qui gagne, c'est un collectif. Et du coup, c'est plus une motivation de groupe. Et là, je l'ai vu, cette motivation, quand j'y suis allé aux États-Unis la semaine dernière. Et vraiment, c'est magique de voir qu'ils sont tous en train de se motiver, en train de s'entraîner à côté, en plus des horaires d'entraînement, pour être meilleurs. Et voilà, c'est assez sain quand même.
Ça, pour le coup, est-ce que vous pensez que la pop culture a eu un impact négatif sur votre discipline? Parce que, en fait, quand on va dans les films, dans les séries et tout, disons-le, c'est hyper bitchy, quoi.
C'est clair, ça vend plus.
Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Bah, en fait, c'est souvent, on voit, en fait, c'est genre les mean girls, en fait.
Ouais.
Et c'est, non, moi, je suis plus forte, je suis plus belle, je suis là-haut, on the social scale. Mais
j'espère que les gens qui écoutent cet épisode parlent un minimum.
Ouais. Sinon, ça va être horrible.
Mais oui, je pense que c'est beaucoup plus vu comme une compétition en fait malsaine, comme une concurrence un peu méchante en fait presque. Mm-hmm. Alors que dans la réalité, c'est pas ça. Mais c'est quand même quelque chose que je pense qu'il s'apprend, justement parce qu'on n'a pas forcément directement cette idée. Mais c'est quelque chose qu'il faut vite comprendre. Et c'est pour ça que je disais déjà avant qu'il faut prendre sur soi, parce qu'on n'est pas tout seul, en fait.
Mmh.
On n'est pas tout seul dans cette équipe, dans ce truc.
Ce n'est pas ce qu'on peut voir dans les teen movies l'américaine.
C'est sûr que dans les teen movies, dans les séries et tout, on voit, je pense qu'on voit trois choses. La première, c'est que c'est l'accès à la popularité.
Ouais.
Donc, effectivement, les plus populaires, c'est les cheerleaders, et les plus jolies, c'est les cheerleaders. Et si t'es un peu ronde, ou si t'es pas athlétique, ou si t'es timide, ou si t'es exactement nerd, ou que t'as des lunettes et que t'es bon en maths, tu peux pas être cheerleader. Mathieu a dit tout à l'heure qu'il était ingénieur, donc après tout est possible. Non, il y a cet aspect-là, effectivement, de vraiment c'est la quête de la popularité, alors que finalement... Et puis il y a aussi un peu le côté c'est esthétique, c'est paillettes, etc. Ouais. En fait, les gens nous verraient à l'entraînement, c'est que de la sueur et
c'est vraiment
c'est pas
beau
à voir. C'est pas beau à voir à l'entraînement pour que ce soit beau à voir en compétition, mais du coup effectivement il y a les uniformes, le maquillage, parce que c'est un sport de performance exactement comme le patinage artistique ou ce genre de choses. Forcément ça joue sur l'image. Le deuxième pour moi cliché entre guillemets, c'est que bah, c'est que des filles, il n'y a pas de garçons. Mm-hmm. Donc ça, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais effectivement, le cheerleading a cette particularité de pouvoir se pratiquer en équipe mixte. Donc pas que, il existe des équipes où il n'y a que des filles. Il existe des équipes mixtes. Je ne crois pas qu'il existe des équipes avec que des garçons. Pas à ma connaissance.
Je crois pas. Hein.
Voilà. Mais c'était le cas avant, comme on l'a dit. Hein, ouais. Le cheerleading, au début, c'était que des garçons aux États-Unis. Donc, pour moi, ça, c'est aussi quelque chose qui est un peu fake news. C'est pas juste des filles blondes. C'est aussi des garçons. Et que ces garçons-là ne sont pas tous gays. Donc, en fait, on ne recrute pas les garçons dans notre équipe sur leur orientation sexuelle. ce n'est pas un critère de recrutement. Et ça, je pense que c'est aussi le côté un peu dense, pompon, qui peut amener à croire que c'est pas un sport athlétique et du coup de lier ça dans l'esprit commun évidemment à un sport pas masculin. Mais aujourd'hui c'est enfin clairement ce n'est pas un critère de reconnaissance comme je l'ai dit. Et...
Ça justement j'allais te poser la question Mathieu quand toi tu t'es intéressé bah t'as dit au début c'était les pompons donc tu t'es dit bah non je vais pas aller faire ça,
ouais, ça.
Voilà t'as eu toi-même des a priori. Est-ce que justement cet aspect mixité mais qui est pas vraiment démocratisé. Enfin, les gens, quand tu dis cheerleading, tu vois effectivement la nana blonde, mince, avec un nœud dans les cheveux. c'est un peu l'image qu'on s'en fait. Est-ce que toi, ça a été compliqué, justement, de... Est-ce que c'est compliqué dans la vie de tous les jours d'expliquer quel sport tu fais ?
Non, c'est pas assez compliqué parce que souvent, quand on me voit, on me dit « Ah, tu fais du rugby ?»
Ouais.
Donc du coup, c'est pas compliqué et juste, je leur montre leurs vidéos et assez facilement, ils disent « Ah, c'est impressionnant, super bien ce que tu fais. »
T'as jamais été sujet au cliché, du coup ?
Non, pas du tout.
Non, non, mais tant mieux pour toi.
T'as eu de la chance, je
pense. Ouais, je pense que j'ai eu de la chance.
Après, je pense que ça dépend vachement des milieux dans lesquels on évolue. Et en fait, effectivement, comme dit Mathieu, moi, en tout cas, les garçons autour de nous, quand on en parle, ils disent toujours, bah, en fait, au bout d'un moment, quand tu sors une vidéo ou une photo de toi capable de porter une fille sur un bras, bon, ben...
Ça calme direct.
Voilà, ça calme un petit peu tout ce qu'on pourrait dire au-delà de n'importe quel jugement, quoi. Mais...
Oui, c'est vrai, en fait, c'est terrible, parce que, encore une fois, je reviens sur l'aspect pop culture et ce qu'on peut voir des représentations de votre discipline, c'est mais blindé de clichés, effectivement.
Oui.
Ah oui.
Donc, je peux comprendre qu'il y ait plein de personnes qui se disent, bah ouais, non, en fait, le cheer, enfin, no way.
Ouais, ouais.
c'est vraiment spécial.
Bah, franchement, c'est un travail quotidien hein, de pédagogie, on va dire. bien sûr, les athlètes qui le pratiquent, bon, bah, nous, on essaye d'en faire la promotion autour de nous. Et je pense que notre entourage comprend assez rapidement que c'est pas ce qu'on croit. Et par ailleurs, nous, en tant qu'athlètes de Paris Cheer, donc club de cheerleading à Paris, on a quand même la chance de pouvoir être assez régulièrement contactés par des médias ou d'avoir un petit peu de visibilité. Mmh. Et effectivement, on attache une grande importance à l'image de la discipline qu'on va donner en proposant un show. Donc, on est très souvent contactés pour faire de la danse avec Pompon. Et ça, on dit non.
Ouais.
En fait, même si c'est payé, même si c'est pour une belle marque, même si c'est une opportunité qui peut être sympa, le premier critère, c'est de dire est-ce que vous cherchez des danseurs ou est-ce que vous cherchez des cheerleaders ? Si vous cherchez des cheerleaders et que c'est cohérent qu'il y ait des portées, des pyramides, c'est cohérent de nous appeler et nous, on veut bien le faire. Mais si c'est pour montrer autre chose que notre sport, appelez les gens qui font ce sport-là. Appelez des danseurs pour faire de la danse. Nous, on n'est pas des danseurs.
Vous êtes souvent sollicité. Vous vous rendez compte d'ailleurs est-ce qu'il y a une recrudescence, enfin, de demandes?
Oui. Ouais, bah, je pense que Elise va mieux l'expliquer que moi. Mais bon, après, on le remarque parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on est avec Paris Cheer, qu'au fur et à mesure des années, la visibilité et la taille des animations, des démonstrations qu'on nous demande, ça prend une certaine ampleur. C'était peut-être avant, on a commencé avec faire des animations pendant les matchs de basket à Nanterre.
Ouais.
Et puis, c'est passé à faire une campagne pour Versace, faire la mi-temps à l'Accor Arena, être dans des films, des
clips,
Maître Gims, I forget. plein de choses comme ça. Donc, quand même, et même là, de faire le podcast, c'est un truc grand.
T'as dit Maître Gims ?
Ouais. Ah, mais...
ouais. Okay. Non, effectivement, bah, moi, mon rôle au sein du club, en plus d'être athlète, c'est aussi de gérer toute la partie bah, sollicitation médias et animation. Et effectivement, la première année, on allait un petit peu... En fait, déjà, la première année, on faisait des choses gratuitement
ouais.
pour, on va dire, un peu se faire connaître. Puis ça permettait aussi à l'équipe de s'entraîner d'un point de vue, justement, performance.
Un moyen de promotion aussi, j'imagine, de l'équipe.
Promotion du sport, promotion du club et un moyen pour les équipes de s'entraîner. Et au début, on faisait ça gratuitement. On allait un petit peu presque chercher les animations. Et effectivement, Nanterre, le club de basket de Nanterre nous a fait confiance assez vite et ça fait longtemps qu'on a une collaboration avec eux. Et je pense qu'ils nous... C'est pas mal ce qui nous a permis de nous faire connaître, on va dire, dans le cercle parisien. Et d'année en année, de toute façon, c'est simple. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on reçoive une sollicitation.
Okay.
Aujourd'hui, on ne fait plus rien de non rémunéré. Pas par appât du gain, mais parce qu'en fait, il faut qu'on choisisse. Et qu'aujourd'hui, ça reste quand même un moyen de financement du club, des compétitions. Et ça permet de réduire les coûts qui sont sinon demandés aux athlètes. Donc, donc en fait, on est obligé de faire des choix. Et on choisit du coup soit ce qui rémunère, soit quand l'expérience va être sympa
ouais.
et un peu marquante pour les athlètes. Aujourd'hui, le cheerleading et le club Paris-Cheer, moi, il m'a permis de vivre des choses incroyables que je ne pensais jamais vivre, de créer des expériences qui sont inoubliables et que je raconterai à mes enfants et à mes petits-enfants. Et donc, moi, mon prisme, quand je choisis, entre guillemets, ce sur quoi on envoie des athlètes, je me dis aussi, OK, est-ce qu'ils vont pouvoir en garder un bon souvenir? Est-ce que ça va être sympa? Et est-ce qu'on va pouvoir le raconter plus tard?
On va en parler aux petits-enfants.
Exactement.
C'était quoi votre expérience la plus marquante?
Faut que je réfléchisse.
Moi, je dirais les championnats du monde. Ça, c'est l'expérience que, pour moi la plus marquante parce qu'on est vraiment dans l'univers. On est à ESPN, qui est quand même un endroit ouais. assez emblématique
aux
États-Unis. On
n'en a pas parlé, mais c'est quand même eux qui ont aussi démocratisé beaucoup le cheer aux États-Unis, pour le coup.
Et du coup, à ESPN, c'est à Orlando. C'est un endroit emblématique. On voit tous les grands matchs de baseball. Je crois qu'il y a du basket. Enfin, il y a quand même
et du foot. Il y a du plein foot, de trucs.
Il y a de tout. Et en fait, on est vraiment plongé dans un univers de cheerleading où on est, comme moi, on dit souvent ça, on a l'impression d'être dans Instagram. En fait, on voit toutes les vidéos d'Instagram et quand on y est sur place, on dit oh la vache. La première fois que j'y suis allé, je me suis pris une claque. On va dire oh, là, c'est trop bien. Qu'est-ce que je fais là? Et voilà, et au fur et à mesure des années, moi, j'adore y retourner chaque année au championnat du monde. Et c'est juste un des meilleurs moments de l'année.
Mais pour revenir deux secondes sur les championnats du monde, c'est un concept hein, quand même. C'est un délire. Hein, c'est vraiment... Non, mais en fait, on est quand même, nous, on va dire, des jeunes athlètes au sein de la discipline. Et quand Mathieu, il dit, on a l'impression d'être dans Instagram, c'est qu'en fait, on se retrouve dans les endroits qu'on a vus sur Internet. On rencontre... En tout cas, on croise les meilleurs athlètes, ce qui nous donne pas l'heure, hein, faut pas croire. Mais donc oui, c'est un peu fou. Et puis on se retrouve, je saurais même pas dire combien de cheerleaders participent au championnat du monde, mais en fait, pendant une semaine, il y a tous les cheerleaders, les meilleurs cheerleaders du monde entier, qui sont réunis à Orlando, dans les mêmes hôtels et dans les mêmes espaces, on va dire. Et en fait, c'est comme plonger dans sa passion, en fait. C'est comme si tout l'univers était...
Le microcosme.
Exactement.
En fait, c'est exactement ça, ce que ça me fait penser. Quand on est là-bas, comme je disais, on est dans les mêmes environs, dans le même hôtel, dans... peu importe. C'est que même quand on est dans nos voitures ou dans nos petits vans pour aller à l'entraînement ou pour aller à ESPN ou quoi que ce soit, on va croiser d'autres vans de cheerleaders.
Au supermarché.
Au supermarché, même sur le trajet, on va les voir à conduire à côté de nous, on va se faire coucou comme ça. Enfin, c'est... En fait, on aurait dit que Orlando, c'est beaucoup plus grand que ça, que juste Disney, ESPN notre petite résidence. Mais en fait, on aurait dit qu'on se transforme, qu'on se transporte dans ce micro-monde où il n'y a que nous.
En fait, c'est aussi parce qu'on est normalement, on fait un sport qui est peu connu, donc on croise pas beaucoup de gens comme ouais. nous. En fait, je pense que un footballeur, il dira pas ça parce qu'un footballeur à Paris, il prend le métro pour rentrer de son entraînement. Potentiellement, il croise un autre footballeur.
Ça dépend quel footballeur.
Non,
prend le métro.
Bien sûr. Un footballeur même amateur, il va peut-être croiser quelqu'un d'autre en tenue de foot qui va rentrer d'entraînement et voilà. Et il va passer à côté de terrain de foot et voilà. Alors que nous, en fait, dans notre univers quotidien, on est un peu on est déjà un peu dans notre microcosme Paris Cheer avec notre club, parce qu'il n'y a pas non plus, même si ça se démocratise, il n'y a pas non plus des milliers de clubs. Et quand on est là-bas, on a l'impression que la terre entière est devenue cheerleader.
C'est aussi le monde du cheerleading, il est quand même assez, c'est grand, mais c'est quand même assez petit. Et on a quand même, moi j'ai quand même j'ai des amis qui sont en Australie, parce que j'ai fait un échange universitaire de 6 mois en Australie.
Il est partout.
C'est ça. Et du coup, j'ai des amis en Australie, j'ai des amis aux États-Unis, j'ai des amis un peu partout. Et vraiment, les championnats du monde, c'est le moment, en fait, où on recroise tout le monde, tous nos amis qu'on a rencontrés grâce au cheerleading autour du monde. Et c'est génial.
Et c'est exactement ça. On va se dire, on va se dire au revoir à un moment. Et genre, bon, on se voit à Orlando. Ouais, ok, salut.
À l'année prochaine.
C'est dingue quand même.
Est-ce que vous, en tant que Français, vous vous sentez un peu en marge dans ce genre d'événement ?
La première année où on y allait. Parce que vraiment, on savait pas où on mettait les pieds, on savait pas ce qu'on faisait, on débarquait, quoi. Vraiment, on était des touristes presque.
Je pense qu'il y avait un écart tellement flagrant au début. Ouais. Enfin, après, on n'y peut rien, tout le monde passe par là, j'ai envie de dire. Donc, mais je pense de plus en plus, enfin, sur Paris Cheer et nos équipes internationales, on commence à vraiment se faire un nom à l'international, nos compétitions en Allemagne et aux États-Unis. Donc, quand même de moins en moins, mais je pense que ça restera toujours aussi impressionnant, pour nous en tout cas, même si on s'y intègre de plus en plus, que dès qu'on va y être, on va être...
Vous avez déjà fait des résultats sur des compétitions internationales ?
Ouais. En fait, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'au début, on ne savait pas ce qu'on faisait là. Ensuite, on est arrivé en sachant ce qu'on devait faire. Et maintenant, en fait, on arrive avec des objectifs et des ambitions. Et aujourd'hui, on se dit qu'on a des chances d'être au plus haut niveau et de battre des équipes qu'avant on regardait.
Pas rêver,
ouais, exactement. C'est sûr. Et vas-y, tu peux parler du palmarès.
les meilleurs palmarès, on va dire. Là, en 2021, l'équipe historique de Paris Cheer, qui est Legacy, on a gagné les championnats d'Europe de club, donc ECC, la compétition en Allemagne que je disais. Et on a regagné là en 2022.
Bravo.
Donc, merci. Et puis, en 2021, on a eu des championnats du monde en virtuel à cause du Covid.
Ah oui. Ouais.
Et à cette compétition-là, l'équipe Paris Cheer, on est arrivé deuxième.
Bravo.
Donc, c'est quand même... On a un podium.
On a un titre de
vice-championnat
du monde.
On a notre grosse coupe à la maison. La médaille, ça reste impressionnant. Ça reste... un peu, enfin, un rêve, parce que moi, que j'ai commencé toute petite, je me disais jamais je vais arriver à ce niveau-là, jamais je vais aller au championnat du monde, jamais j'aurais cru arriver en podium. Alors que là, maintenant, enfin, nous, en tout cas, notre équipe cette année, ça fait partie de nos objectifs de faire un podium au championnat du monde, alors que il y a quelques années, on nous dit ça, jamais
on y
aurait cru.
Vous étiez juste content d'être là.
C'est exactement ça. Et je me rappelle que la première fois que moi j'ai été allée au championnat du monde, du coup c'était avec mon ancien club. J'étais avec ma famille, parce que ma sœur aussi elle a fait du cheer et mes parents très très investis. On y a croisé là-bas un coach canadien qu'on avait eu. Et première fois au championnat du monde, waouh, trop impressionnant. Et je me rappelle qu'il avait dit à ma mère, qui était là genre, c'est le premier, hein. Mais je vous assure, vous allez revenir tous les ans. Et nous on était là genre, mais non, et tout, bah si. Mais donc, en fait, ça, c'est dingue, en fait, d'y repenser comme ça.
C'est génial. Super. Moi, je vous écoute, là. Moi, j'y suis, je me projette, je vous vois sur les compétitions. Non, c'est génial. Et comment faire ? Les prochaines étapes, c'est quoi, en fait ? Est-ce que vous avez envie que le cheer se démocratise de plus en plus en France ? Est-ce que vous avez envie aussi, vous le dites, mais de devenir de plus en plus compétitif sur les meilleures équipes mondiales ? C'est quoi les next steps ? On va continuer de parler en anglais.
c'est sûr que, en fait, pour moi, c'est un sport qui a énormément de potentiel pour toutes les raisons qu'on a citées, parce que c'est un sport qui permet la pratique mixte, qui rassemble plein de compétences différentes, plein de gabarits, qui peut se commencer au plus jeune âge, mais qui peut aussi être presque un sport de reconversion pour des gens qui auraient fait d'autres sports avant. Des anciens gymnastes, la gymnastique, par exemple, c'est un sport où on arrête la compétition relativement jeune, en tout cas la compétition de haut niveau.
En petite vingtaine, ouais.
Voilà. Mm. Et nous, on en a en fait des athlètes qui sont des anciens gymnastes qui ne font plus de compétition parce que soit dans leur club, il n'y a plus d'équipe pour en faire ou parce que en fait, elles sont trop décrochées en termes de niveau. Donc, c'est un sport qui, pour moi, peut intéresser et peut avoir beaucoup de valeur pour plein de profils différents, on va dire. Et ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est d'une structure et d'une ambition. Et donc, nous, avec le club Paris-Tir, c'est ce qu'on essaye de porter. On essaye vraiment de pouvoir, quelque part, faire grandir à la fois la notoriété, mais aussi la structuration et la gouvernance. Aujourd'hui, le système fédéral, il n'y a pas de fédération de cheerleading. Donc, je pense que ce serait déjà presque un premier pas. D'obtenir aussi la reconnaissance comme sport de haut niveau, ça permettrait aussi d'autres possibilités de développement.
D'accéder à des aides, de pouvoir professionnaliser la discipline. Ouais.
Exactement. Donc, bon, tout ça, ce serait super. donc, oui, on a des grandes ambitions. Et après, moi, quelque part, je sais pas, je suis vieille maintenant. Donc, ce sera peut-être Summer et Mathieu qui les porteront.
Oh. J'aime pas quand les gens parlent d'âge. À chaque fois, je me mets en colère.
Non, mais on va dire que d'un point de vue athlétique, c'est sûr que... Enfin, moi, pour le coup, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Et en plus, je me remets d'une blessure, d'une grosse blessure. Donc, voilà. Mais Mathieu et Summer, effectivement, qui sont plus jeunes que moi. Mathieu qui a commencé après moi. Aujourd'hui, effectivement, ils sont mes coachs. Pour plein de raisons différentes, parce que déjà on a plusieurs équipes dans le club et que du coup on n'est pas athlète dans la même équipe, mais aussi parce que en fait eux ils grandissent en compétences et ils prennent en maturité et qu'aujourd'hui c'est à leur tour d'enseigner, de transmettre et de faire grandir le niveau chez les athlètes.
Tu reviendras dans un an nous faire ton compte rendu de ton année passée aux États-Unis.
Oui. C'est ça.
Et voir si ton point de vue a changé sur la discipline, peut-être.
Après, Élise disait que les gymnastes, ils s'arrêtaient tôt. Et c'est qu'il y a une raison aussi, c'est au niveau du corps. En fait, on le sent. Et moi, j'ai beau avoir 25 ans, je sens mon corps, il commence à vieillir. Et je sens.
Ah, Mathieu, on va pas finir là-dessus quand même.
Non, on va pas finir là-dessus. Mais du coup. Moi, mon objectif des États-Unis, c'est un peu, on va dire, la fin de carrière de cheerleading et de finir en beauté.
En tant qu'athlète.
En tant qu'athlète aux États-Unis. Après, qu'est-ce que je vais faire en retournant en France ? Ça, je ne sais pas.
Après, on dit.
On dit toujours qu'on va arrêter. Mais ça se trouve, à 30 ans, je serai encore là.
C'est un fait dans le monde du cheer. C'est impossible de prendre sa retraite. De cheerleader, c'est impossible.
Vous avez des collègues de cheer de 60, 70 ans ?
Pas forcément, mais...
La discipline n'est pas assez vieille pour avoir des collègues de cet âge-là. Ouais. Mais cela étant dit, on a des athlètes, des coéquipiers actuels, enfin, ou vous, des athlètes pour vous, ont arrêté 3 ans, 4 ans et qui reviennent parce qu'il y a un goût de...
pas assez. En fait. Et ça. Puis même, il va y avoir ceux qui disent en fin de saison, bon, ok... C'est bon, c'était une bonne saison, on en termine là et on les revoit quand même en septembre. Quoi.
L'ambiance nous manque, l'ambiance de cheer.
L'équipe, elle manque, cet aspect de famille nous manque. Enfin, c'est tellement particulier, c'est tellement unique, on le retrouve, enfin, pas que je sache en tout cas, on le retrouve nulle part, surtout enfin, dans des équipes où on est plus adulte, où il y a de la mixité et tout. Enfin, c'est tellement particulier qu'on se voit tous en fait comme de la famille, comme des frères et sœurs, et on sait que c'est ces gens-là qui vont être à notre mariage, qui vont être là pour... mais c'est vrai, c'est des faits.
C'est vrai que moi, j'étais témoin de mariage de deux amis que j'ai rencontrés au Chadding qui sont mariés ensemble.
Ça part en pyramide en plein milieu du dessert.
c'est la tradition.
C'est souvent avoir des stunts.
C'est vrai que... Et puis après, il faut reconnaître qu'on passe énormément de temps ensemble. On s'entraîne, nous, avec les infrastructures qu'on a à dispo, on s'entraîne que le week-end, mais ça veut dire qu'on s'entraîne tous les week-ends.
Tous les week-ends, on passe nos vacances ensemble, on fait des voyages ensemble, on se voit dans nos pires et nos meilleurs états, donc forcément, ça va créer des liens mais qui vont tenir jusqu'à jamais, quoi.
Donc à la fois, le fait de s'entraîner tous les week-ends, chaque week-end, et de ne pas avoir de temps libre, c'est ce qui nous fait nous dire à la fin de la saison, bon, la prochaine, j'arrête. Et en même temps, c'est ce qui fait qu'au bout de 3 week-ends, on se dit, bon, en fait, je m'ennuie.
On n'a plus l'habitude de ne pas avoir de week-end.
C'est clair. Bon, voilà, maintenant vous saurez, si jamais vous avez envie de faire du cheer, allez-y, vous finirez par faire des pyramides à des mariages.
Exactement.
Ça donne des bonnes photos de mariage.
Je n'en doute pas.
Et ça vous permettra d'apprendre l'anglais.
également. Oui. Ça, pour le coup, effectivement, navré pour les non-anglophones, je pense que vous arriverez quand même à comprendre un petit peu.
Ça s'apprend petit à petit.
Mais en tout cas, je trouve ça super de pouvoir avoir un autre regard sur la discipline et de gens qui sont à l'intérieur de la discipline. Donc, merci pour ça. Et juste pour clore l'épisode, mais si vous aviez un conseil, un mot pour les personnes qui voudraient, les hommes, les femmes, qui ont peut-être des a priori, qui ont peur des clichés sur la discipline, qu'est-ce que vous voudriez leur dire ?
Go for it.
Faut y aller.
En fait, on peut pas... Si on a des a priori, si on a des peurs, si on se pose plein de questions, en fait, il faut juste découvrir. Donc, il faut... Si on se dit, j'ai toujours voulu faire du cheer, mais je pense pas que je vais avoir le niveau ou que...
Ou je suis trop vieille.
Ou je suis trop vieille. Enfin, plein de choses comme ça. Et ben, juste tentez votre chance, en fait. Parce que vous allez sûrement réussir, vous allez sûrement trouver quelque chose de unique que vous allez vous en rappeler toute votre vie, en fait.
C'est ça, il y a beaucoup de personnes avec qui je parle qui disent « Ah, mais moi, je peux pas porter des gens, j'ai pas de force, j'ai pas de niveau. » Et en fait, on se rend compte que vraiment, tout le monde peut en faire. Il y a différents niveaux, mais tout le monde peut en faire à son niveau. Et ça reste quand même un sport assez impressionnant à tous les niveaux. Et c'est super bien.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que par rapport à se mettre à la course à pied, par exemple, je pense que tout le monde se dit qu'il sait courir, ce qui est d'ailleurs, je pense, faux, parce qu'il y a plein de gens qui pensent savoir courir et qui pensent que c'est facile, alors que c'est aussi très technique, la course à pied. Et nous, effectivement, les gens, ils se disent, ben, moi, je sais courir, donc je peux aller courir un marathon. En revanche, je ne sais pas porter des gens. Mais nous, on n'est pas nés en sachant porter des gens ou en sachant faire des saltos à 8 mètres de hauteur. Ça
à deux ans dans le berceau, je faisais des saltos.
Non, mais donc voilà. Donc en fait, tout s'apprend, effectivement, et vous n'avez rien à perdre que d'oser. En fait, on est toujours récompensé, je trouve, par le fait d'oser. Au pire des cas, on a une nouvelle expérience, et dans le meilleur des cas, on découvre peut-être une passion.
Et j'aimerais bien rajouter aussi que outre l'aspect sportif, il y a aussi un grand aspect humain où moi, j'ai vraiment gagné en maturité. Où avant, j'étais quelqu'un de timide, d'assez réservé, où je n'avais pas énormément de confiance en moi, on va dire. Et le cheerleading, ça m'a appris du coup à faire un peu le show et du coup à avoir confiance en moi, être beaucoup moins timide. Et je suis beaucoup plus à l'aise, on va dire, dans la vie de tous les jours. Donc c'est même...
C'est sourire de façon très forcée.
Et c'est ça.
Ça, bizarrement, j'arrive pas à le mettre en pratique ailleurs que sur le praticable. Ouais. J'ai encore du mal.
Non, mais c'est sûr, en vrai, dans notre pratique, on apprend tellement de choses plus que sportives, extra-sportives, on va dire, que en vrai, ça nous resserre dans la vie de tous les jours. Le travail d'équipe, la rigueur, la discipline, l'organisation, la motivation. Enfin, il y a plein de trucs qu'on va appliquer dans nos vies de tous les jours, en fait. Mm.
Le fameux adage, le sport école de la vie.
Ben ouais, le sport change des vies. En tout cas, moi, il a changé la mienne. Et je ne serais pas là.
Ouais.
Déjà, je ne serais pas là aujourd'hui sans ça. Et même dans ma vie personnelle, je ne serais pas là où j'en suis d'un point de vue maturité, tu l'as dit, d'un point de vue carrière. Les amis que j'ai, ce ne seraient pas les mêmes si je n'avais pas poussé la porte d'un gymnase.
Mm.
Trop bien. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir... On sent la passion quand vous vous exprimez sur la discipline. Donc, je pense que c'est déjà la meilleure promotion de votre sport que d'être à fond comme vous êtes. Donc,
nous, on pourrait encore en parler pendant 2 heures. Hein, si tu nous enlèves pas le micro, on est parti pour la soirée.
Eh bien, écoutez, moi, je vais m'en aller.
Je vais parler entre vous.
Et je vais vous laisser parler. Du coup, je continue d'enregistrer. Je découvrirai en faisant le montage de cet épisode ce qui s'est passé.
On peut juste dire à tout le monde que si vous avez envie de nous suivre, on est dans une saison très riche. On a... deux équipes internationales qui partent au championnat du monde au mois d'avril, du coup, à Orlando, et qui iront ensuite au championnat d'Europe en club en Allemagne en mai. Pour les francophones, on sera à Lyon au mois de mai aussi pour une compétition qu'on adore, compétition nationale. Et voilà, et vous pouvez nous suivre sur les réseaux paris.cher sur Instagram.
Voilà. Donc, ouais. On sent qu'elle a l'habitude.
L'habitude. <C'est ça. rire>
Top. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Et j'ai rien à rajouter parce que du coup, Élise a tout dit.
Merci, Élise.
Donc, je ne sers plus à rien.
Mais si, il faut faire le montage maintenant.
Bah écoutez, merci. Et puis j'espère pouvoir vous voir en live, surtout à un moment donné.
Eh ben, il n'y a pas de problème. Tu seras invité à notre showcase. Avant les mondiaux, on montre nos routines. Donc on t'invitera avec plaisir.
Avec grand plaisir.
Et merci à toi de nous permettre de partager notre passion, de faire découvrir notre sport au plus grand nombre.
Et de faire entendre nos histoires.
Avec plaisir. Et vos histoires méritent d'être entendues. Donc, voilà.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup. Et puis à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.